Bible dit
« Ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. »
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. That power over me. You got that power over me.
the side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Tries to pull me low, and when I'm looking for heaven here below. Against the darkness, a voice still inside me is telling me not to quit. Whoa. I'm headed someplace where the dawn is broken, even though I don't know when that day is. But when all this heavy tries to pull me low, and when I'm looking for help.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
Le temps passe vite, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez remarqué, hein, le temps passe vraiment vite, les anniversaires se succèdent les uns aux autres, et à chaque fois ça me fait prendre conscience, à chaque fois que c'est l'anniversaire, de me dire waouh, une année de plus. Et dernièrement j'ai lu une petite histoire qui m'a fait sourire. Il y a un homme qui s'appelle Marcel, et lui il va souffler ses 70 printemps, et Marcel, voilà, il a 70 ans et il est bien empâté, il a une grosse touffe de cheveux blancs, la barbe blanche, il ressemble un petit peu vraiment le style Père Noël, et là il dit bon, suivant le nombre d'années qui me reste quand même, j'aimerais bien finir, j'aimerais vieillir le mieux possible jusqu'au bout. Alors il décide de prendre sa vie en main, et il va s'inscrire à une salle de sport. Et là il se met à faire du sport, et vraiment au bout de 3 mois, il y a un beau résultat. 3 mois plus tard, Marcel a perdu 15 kilos, 2 tours de taille, waouh, ça le rajeunit, il est vraiment vivifié comme ça, waouh, c'est tout le monde est stupéfait. Et là bien sûr il doit changer sa garde-robe, alors il va dans les magasins et puis achète les derniers vêtements à la mode. Et puis voilà quoi, 15 kilos de moins, les derniers vêtements à la mode. Et puis il fait des petites séances d'UV parce que ça l'excite tout ça. Hein, il retrouve sa jeunesse. Alors, il fait des petites séances d'UV pour être tout bronzé. Et puis là, il tombe sur une photo de David Agostini. Il dit, moi aussi, je veux être hipster. Je veux vraiment avoir la barbe comme lui, les cheveux comme lui. Alors il prend sa photo, il va au coiffeur. Il dit, moi, je veux ressembler à lui. Et là, on lui fait la coupe, on lui teint les cheveux en noir, on lui teint la barbe en noir. Là, vous imaginez, Marcel sort du coiffeur, il n'en peut plus. Hein. Il est là, il est habillé comme un petit jeune, un corps svelte, la barbe hipster, etc. Vraiment, il est en état euphorique. Et alors qu'il est tout content comme ça, il ne fait pas gaffe. Et au moment de traverser, poum, il y a une voiture qui le frappe. Et là, il se retrouve. Non, c'est pas horrible, il n'est pas mort, c'est une blague, n'ayez pas peur. Et là, il est à terre, il a été projeté par la voiture, et il est vraiment en état second, complètement moribond. Et là, il ne sait pas ce qui vient d'arriver, il est tellement déçu. Et là, il lève ses yeux au ciel, il dit « Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça à moi ?» Et là, Dieu lui répond, il dit « Écoute, Marcel, désolé, je ne t'avais pas reconnu. » La vie passe vite. Et on fait tout ce que l'on peut pour la retenir, hein. Et bien sûr, on vieillit, et puis c'est bien de vieillir, et c'est bien de vieillir le mieux possible. Mais ce qui est encore mieux, et j'espère que vous êtes avec moi, c'est que lorsque nous serons au crépuscule de notre vie, que l'on puisse se retourner sur le chemin qui a été accompli sans avoir de regrets, en disant tout ce que j'étais, tout ce que j'étais appelé à être et à accomplir sur cette terre, j'ai tout livré de mon vivant. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. J'avais apporté un jour un message comme ça. C'est pas notre cercueil qui doit avoir notre trésor, mais on doit tout donner alors que nous sommes vivants. Nous voulons vivre une bonne vie. Même si c'est inéluctable, nous allons vieillir. La Bible dit, David a dit, c'est le chemin de tout homme, on y va. Mais nous voulons tout donner. Nous voulons donner le meilleur et nous voulons avoir le maximum et le plus beau des impacts. Alors, ce matin, j'aimerais vous apporter un message dans la thématique de « Je ne veux pas d'une vie banale ». J'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « Que ta vie puisse compter ». J'espère que vous êtes avec moi, mais nous désirons que notre vie puisse compter. On ne veut pas une vie pour rien. De toute façon, on n'en a qu'une vie. Donc si elle est pour rien, on a tout perdu. On ne veut pas une vie pour rien, mais on désire que notre vie puisse compter. On désire que notre vie puisse porter un fruit. Un jour, Moïse a écrit un psaume vraiment qui est lourd de sens. Vous savez, si un homme qui sait ce que c'est que de perdre son temps, ça a été Moïse, même s'il a su mettre à profit le temps qu'il a perdu, mais il a quand même, sur les 120 ans, que la Bible nous dit, les 120 ans qu'il a vécu, il a passé les 80 ans les 80 dernières années de sa vie, il les a passées dans un désert. Et il a passé, alors qu'il avait tout juste 40 ans, à cause d'une mauvaise attitude, il est parti dans un désert et il est resté là pendant 40 ans, dans ce désert à Madian. Et pendant 40 ans, il a vécu le désert, et je sais que Jérémie, la semaine passée, vous a parlé de ça. Et après que Dieu l'ait appelé à ce buisson ardent, il est parti aller délivrer le peuple d'Israël, il est parti en Égypte. Et là, il va, les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez, la mer rouge qui s'ouvre en deux. Et là, alors qu'il part au bout d'une année encore de désert, il se trouve aux portes du pays promis, c'est le moment de la conquête, c'est le moment de la victoire, c'est le moment où les choses, on va rentrer maintenant dans la vraie action, c'est plus le désert. Mais à cause, la Bible nous dit, de la mauvaise attitude du peuple, ils vont retourner dans le désert pendant 39 ans. Donc s'il y a un homme qui est légitime et qui sait ce que ça veut dire que de perdre son temps dans un désert, parce que le but de Dieu ce n'est pas que nous mourions dans le désert, le but de Dieu c'est pas que nous tournions en rond dans un désert, mais le but de Dieu c'est que nous puissions accomplir et saisir l'héritage qu'il a prévu pour notre vie. Et là, Moïse va écrire, dans sa vieillesse, un psaume. La plupart des psaumes ont été écrits par David ou les fils d'Azaph, mais Moïse a écrit quelques psaumes. Et voici le psaume que David a écrit. Le temps de notre vie, c'est 70 au mieux, 80 pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps, écoutez bien, passe vite et nous nous envolons. Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Il y a un appel à réaliser que la vie passe vite. La Bible nous dit également dans d'autres passages, c'est comme de la vapeur qui s'élève. Et t'as à peine le temps de voir la vapeur qui s'élève de terre que pouf, elle est dissipée. Il y a un écrivain, Ronsard, qui a dit ceci, que littéralement la vie, il faut l'accueillir, c'est comme une rose. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. D'autres, vous connaissez les passages Carpe Diem. Profite du jour présent. Hier est passé. Et demain, tu sais pas ce qui va arriver, mais aujourd'hui, tu es vivant. Et il y a un appel à ce que notre vie puisse compter. Il y a un appel à saisir la vie que Dieu a pour nous. C'est une joie. J'espère que vous êtes avec moi, mais on est heureux d'être vivant et d'être là ce matin. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est une joie que Dieu nous donne. Et parfois, on se pourrit la vie à critiquer, à se prendre la tête, à pas être content de ceci, à pas être content de cela. Mais il y a un appel à être heureux de ce que Dieu nous donne, d'être là ce matin, de nous réjouir et de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Premièrement, ce matin, qu'est-ce que la vie ? C'est quoi la vie ? La Bible dit ceci dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 14, à des personnes qui sont un petit peu hautains, puis qui veulent faire ceci, cela. Jacques leur dit ceci, « Savez-vous ce que l'avenir vous réserve ? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie ?» Et là, il y répond, « Une légère brume, c'est un peu comme de la vapeur, un autre passage que je citais tout à l'heure, c'est une légère brume visible, quelques instants, et qui se dissipe bien vite. » C'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose de... C'est très éphémère. Vous savez, quasiment chaque décennie, j'ai vécu une crise. À l'âge de 10 ans, j'ai vécu une crise. Mon papa est parti de la maison. Et le jour de mes 10 ans, je me souviens, un ancien de l'église m'a regardé. Et il m'a dit, tu sais, maintenant ton papa est parti de la maison, c'est toi le chef de famille. Et il me dit, t'as 10 ans, t'es devenu la moitié d'un homme. Vous imaginez un peu sur les épaules d'un gamin de 10 ans, d'un seul coup, j'ai fait comme ça. C'était lourd, et vraiment, on me l'a dit de manière solennelle. On me disait même, certains me disaient, il faudrait que tu parles à ton père, etc. Moi, j'étais un petit gamin de 10 ans. Moi, mon père, c'était comme Dieu sur terre. Et fallait que j'adresse déjà, t'as 10 ans, faut que déjà que toi t'adresses ton père, etc. Vous comprenez? Et là, j'ai vécu une vraie crise. Et je me souviens, même que je voulais aider ma maman et j'avais une petite tirelire avec des petites pièces jaunes à l'intérieur, il devait peut-être y avoir 20 francs, ça représente 3 euros, mais pour moi c'était beaucoup d'argent parce que c'était plein de pièces, elle était lourde, c'était un petit écureuil je me souviens, et j'étais apporté ça à ma mère, croyant que ça allait subvenir à tous ses besoins. Sauf que quand ma mère elle a pris la tirelire et qu'elle a vu ce qu'il y avait dedans, j'ai compris, vu sa tête, j'ai compris que ça allait pas régler tous les problèmes, mais c'était ça. Quand j'ai eu 20 ans, c'était « Hey, maintenant, c'est la décennie, faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants, faut que tu dois avoir un job, tu dois avoir ceci, tu dois avoir ceci, tu dois, c'est tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. » Et là, t'es là « Wow !» Et heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai réussi le concours. Hein. J'ai été marié, j'ai eu des enfants, sinon je sais pas ce qu'on m'aurait dit. Et à l'âge de 30 ans, ça passe vite maintenant quand j'y pense, à l'âge de 30 ans, j'ai eu une autre petite crise. À 31 ans exactement, c'est un truc bête, hein. Mais je le savais avant d'avoir 30 ans, ça, mais c'est comme si à 30 ans, j'ai vraiment pris conscience de ça, ça s'est amplifié. J'ai pris conscience qu'un jour, j'allais mourir. Je le savais avant, hein, ne vous inquiétez pas, je le savais. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, et ça a généré en moi une angoisse. Je me suis dit, ah ouais, t'es plus un gamin, un jour tu vas mourir. Et là, je me voyais dans un cercueil, dans des planches, bouffé par les vers, etc. Je sais, ça n'a rien de romantique, tout ça, mais et vraiment, ça me stressait. J'ai vraiment, c'est pas une blague, j'avais des angoisses, ça a duré quasiment une année. Et à l'âge de 40 ans, un peu plus, 42, 43, j'ai fait une autre crise. Mais c'est pas la crise de la quarantaine, hein. La crise de la quarantaine, j'ai bien regardé, parce que quand j'ai vécu ça, je voulais savoir et tout. La crise de la quarantaine, c'est quoi ? En règle générale, c'est quelqu'un qui arrive à 40 ans et qui est pas satisfait de sa vie, qui est pas satisfait de son job, il fait le bilan de sa vie, parce que généralement 40 ans, t'es à peu près à la moitié, et tu fais le bilan, et puis finalement t'es pas content de ta vie de famille, ta femme, tes enfants, ta voiture, ta maison, ton chien, ton chat, ton job, etc. Et généralement, dans les quelques années qui suivent, tu changes tout. C'est ça la crise de la quarantaine. Et moi, je suis arrivé à l'âge de 40 ans et très heureux de ma vie, heureux de mon mariage, j'aime mon épouse, elle m'aime, j'aime mes enfants, tout se passe bien, je suis en bonne santé, heureux de, je suis, et j'étais content, pasteur d'une des plus grosses églises en France, j'écris des pensées du jour et lues par des dizaines de milliers de personnes, écrit un livre, etc. Donc je suis arrivé à 40 ans, pas avec la crise de la quarantaine, mais content de ce que, du bilan, quelque part, et de réaliser la grâce de Dieu, que Dieu m'avait donné, le cadeau que Dieu m'avait donné. Mais j'ai quand même vécu une crise. Vous savez quelle crise j'ai vécu? C'est comme à 31 ans quand j'ai compris que j'allais mourir. Là, j'ai compris autre chose. Vous allez me dire, c'est ridicule. Mais vraiment, ça m'a stressé. Et je dois vous avouer, ça me stresse encore un peu de temps en temps. J'ai pris conscience que j'allais vieillir. J'ai pris conscience qu'un jour, j'allais être vieux. Et vraiment, ça m'a fait stresser. Au point, vous savez, des moments, je suis sûr qu'il y en a, vous le faites. Tu sais, quand t'es avec tes gamins ou t'es avec ta femme et tu vois quelqu'un qui a le même âge que toi, mais tu le trouves vieux. Et là, tu dis à ta femme, tu dis, j'ai pas sa tête au moins, je suis pas comme lui, hein. Mais vraiment, et c'est pas l'histoire des rides de ceci, de cela, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est plutôt la notion de, waouh, le temps passe. Et moi, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à accomplir. Et c'est comme tu veux retenir le temps. T'essayes de le retenir parce que tu veux, moi là, j'ai encore plein de choses à vivre. Et là, d'un seul coup, j'ai pris conscience que, on y va, quoi. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a pesé. Et de temps en temps, j'ai des petits relents même. Et il y a deux semaines, je vous disais, j'étais en Suisse. Et alors que je suis sur le premier rang, comme ça, il y a le pasteur qui ouvre la réunion. Et il ouvre la réunion en lisant un passage de la parole. Un passage de la Bible qui nous parle de louer l'Éternel, toutes les différentes générations, etc., etc. Et là, il dit, alors moi, je suis assis, je suis au premier rang. Et puis, à côté de moi, il y a un gars, il a 30 ans. Et la petite trentaine, et un autre gars à côté de moi, il a la petite soixantaine. Et les deux, la trentaine, soixantaine, et moi je suis au milieu, j'ai 45, je suis plus en plus au milieu, on n'avait pas fait exprès, mais c'était comme ça. Et là, il dit, prenez un instant et saluez, dites à votre voisin, souhaitez la bienvenue à votre voisin, mais il faut que ça soit quelqu'un d'une autre génération que la vôtre. Alors moi je suis tout content, je me retourne vers celui qui a 60 ans. Et là, j'ai pas le temps de parler, il me regarde, il me dit, on est de la même génération, mais je te salue. Tu me salues, toi. Mais la chose qui m'a fait du bien, c'est que je me suis retourné vers le gars qui avait une trentaine d'années, et là il me regarde, il m'a dit la même chose. On est de la même génération, mais je te salue. Je dis, toi t'es mon copain, toi je t'aime bien. L'autre il voulait me parler, non, laisse-nous parler entre jeunes, s'il te plaît. Mais j'arrive à comprendre celui de 60. Pour lui, je suis trop vieux pour être son fils, et pour l'autre, je suis trop jeune pour être son père. Et je me retrouve entre les deux. Mais vous savez ce que ça générait dans ma tête? Je me suis dit, aïe, en fait c'est hier que t'avais 30 ans. Et c'est demain que t'en as 60. En fait, j'étais proche finalement des deux. C'est ça qui est ambigu, hein. C'est ça quand vous êtes au milieu d'une génération, hein. Vous êtes intergénération comme ça. C'est que je suis proche de lui, mais je suis proche de lui. C'est hier que j'avais 30 ans, mais c'est demain que je vais en avoir 60. Et là, je me suis dit, parce que moi, dans ma tête, 60, c'est quasiment... Puis la réalité, 60, t'as encore du jus, tu peux faire encore plein de choses, et puis t'es pas vieux. Mais il y a cette notion que, moi, j'ai encore plein de choses, on a encore plein de choses à faire. On veut faire des campus, on veut faire des églises, on veut faire ceci, je vais encore écrire des livres, plein de choses que je veux faire. Sauf que je m'aperçois que, waouh, ça va vite, quoi. Et là, qu'est-ce que la vie? C'est ce que David dit, c'est ce que Moïse dit. C'est ce que Jacques dit. La vie, c'est comme un peu de vapeur qui se lève. T'as à peine le temps de la voir que elle est dissipée. Et là, il y a un appel à réaliser, à bien comprendre ceci, à bien comprendre le temps qui passe et à ne pas tuer le temps. Il y a quand même des expressions qui sont ignobles. Tuer le temps. Vous savez que la plus belle des richesses que nous avons, c'est le temps. La plus grande des richesses, une des plus grandes des richesses que vous avez, c'est le temps. Donc de tuer le temps ou de perdre son temps, c'est mépriser une des plus grandes richesses que vous avez. Et j'espère que vous êtes avec moi, mais je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas tuer mon temps. Je veux vivre le plus longtemps possible. Je veux vivre en meilleure santé le plus longtemps possible. Mais je veux arriver à la fin de ma vie, me retourner et de dire, comme l'apôtre Paul a pu le dire, j'ai achevé la course. Tout ce que je devais faire, je l'ai accompli. Je veux dire ce que Jésus a pu dire sur le bois de la croix. Tout est accompli. La mission, les choses que je devais vivre dans ma vie, je les ai vécues ici-bas. Il y a un appel, c'est ça la sagesse, à bien compter nos jours, à avoir cette intelligence. Il y a d'autres passages qui nous disent littéralement, l'apôtre Paul dit, rachetez le temps, ne le gaspillez pas, c'est précieux le temps. Et un appel, si nous ne voulons pas avoir une vie banale, c'est de réaliser la richesse que nous avons aujourd'hui. Hier est passé, demain est incertain, mais aujourd'hui est le cadeau que Dieu nous donne. Et je veux réaliser et aimer la vie, aimer les gens qui sont autour de moi. Je ne veux plus me fatiguer dans des luttes stériles, mais je réalise que la vie passe vite. C'est pourquoi, deuxièmement, c'est la question que j'aimerais vous poser et finir avec ça. Que vas-tu faire du reste de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? C'est comme s'il y avait un compte à rebours maintenant. Nous, souvent, c'est ben, je vais vivre jusqu'à tel âge, tel âge, tel âge. Mais si on prenait la chose un peu à l'envers, c'est comme si finalement, les jours de notre vie sont définis et il y a un compte à rebours de ce que nous allons vivre. Il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Et Ézéchias arrive à la fin de sa vie, il est sur son lit de mort. Il est frappé par une maladie qui est en train de le conduire à la mort. Et Ézéchias est là, il voit la situation politique, économique, militaire du pays n'est pas stable. Et là, il est inquiet. Et il est complètement inquiet. Et puis, pour lui, c'est comme trop jeune maintenant de mourir. Et là, il apprend cette mauvaise nouvelle. Ésaïe vient lui apporter cette mauvaise nouvelle. Et Ézéchias va se retrouver avec un cadeau qu'on va lui faire. Regardez ce qu'il est dit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle, et fit cette prière à l'Éternel « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Quelle grâce cet homme a vécu. Cet homme a vécu vraiment une réelle grâce alors qu'il est sur le point de mourir, qu'il est inquiet sur l'avenir de son pays. Il est là et il fait cette prière et Dieu vient et il donne des jours bien définis. Il dit voilà, je te donne 15 ans de plus. Et là, Ézéchias se retrouve avec ce cadeau dans les mains. Il se retrouve avec ce cadeau dans les mains. Ça a été un super bon roi, Ézéchias. Ézéchias, c'est un homme qui a abattu les autels de Baal et d'Astarté, les divinités de l'époque. Il a fait le ménage en Israël. Il a amené le pays à aimer, à adorer Dieu. C'était vraiment un bon roi. Et là, il est au seuil de la mort et puis on lui donne 15 années de plus. Et là, alors qu'il va avoir ses 15 ans de plus, la question que je lui pose, la question que je me pose, la question qu'on peut se poser, c'est ceci. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, et le premier jour du reste de votre vie, il y a une chanson qui dit ça, c'est le premier jour du reste de votre vie, comment allez-vous vivre? Comment Ézéchias a vécu? Ézéchias, la Bible nous dit que lorsqu'il a été mieux, plutôt que de dire, ben voilà, je vais investir mes 15 années qui me restent à vraiment solidifier le peuple, que ça devienne vraiment des adorateurs, ça devienne vraiment des gens qui sont attachés à Dieu, et puis je vais avoir un enfant, et puis je vais éduquer pour qu'il devienne un bon roi, et m'investir dans sa vie, m'investir dans la vie de mes enfants, m'investir dans mon foyer, dans mon couple, etc. Plutôt que de faire tout ça, Ézéchias, malheureusement, vous savez, des moments, il vaut mieux mourir quand Dieu l'avait décidé, hein. Parce que la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et si le commencement d'Ézéchias a été bon, malheureusement, les 15 dernières années qu'il a eues en bonus, en cadeau, il les a mal utilisées. La Bible nous dit que Ézéchias va en être complètement orgueilleux. Et plutôt que d'investir dans sa vie et d'aimer la vie, d'aimer son épouse, d'aimer ses enfants, d'aimer son pays, d'aimer son Dieu, il va passer son temps à essayer de paraître. Il va passer son temps à nourrir son ego pour que les gens l'acclament, l'applaudissent et l'aiment et l'apprécient. Et la Bible nous dit que littéralement même, il va faire visiter. Il y a des gens qui sont là, d'autres personnes, qui sont même des ennemis. Et plutôt que de se méfier d'eux, la Bible nous dit qu'il va faire une visite de son royaume. Il va faire une visite de tout son royaume. Il va montrer toutes les richesses qu'il a. Et je l'imagine quand il montre ses richesses, vraiment il est en train de se péter les bretelles. T'as vu un petit peu comment je suis beau, comment je suis fort. T'as vu un petit peu ce que j'ai fait, t'as vu un petit peu ce que j'ai accompli, etc. Et lorsque Esaïe l'apprend, celui qui avait prié pour lui, qui lui avait donné une parole avec ses 15 années supplémentaires, la Bible nous dit que Esaïe va aller le voir. Et Esaïe va lui dire, est-ce que t'as fait ça? Et lui va dire, ben oui, j'ai fait ça. Et il dit, mais t'as rien caché, t'as tout montré. En d'autres termes, t'as été au bout de ton orgueil comme ça. Et il dit, ouais, j'ai tout fait, j'ai tout montré. Et vous savez ce que Esaïe va lui dire? Il va dire, parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas compris vraiment la pensée de Dieu, de le cadeau de la vie que Dieu nous donne, parce que t'as fait ça, ton royaume après toi va complètement disparaître. Il va être anéanti. À cause de cette mauvaise appréciation de la vie, plutôt que d'aimer la vie, d'aimer ton épouse, d'aimer ton enfant, d'aimer ce que Dieu te donne, parce que tu as voulu juste paraître avec ton ego, à cause de ça, après toi, une fois que tu vas mourir, tout va s'effondrer. Et lui, il est tellement fier de son ego, vous savez ce qu'il va dire? Plutôt que de dire, mais c'est terrible ce qui va se passer pour mes enfants, vous savez ce qu'il va dire pour élire ça tranquillement chez vous? Il va dire littéralement, il va dire, mais c'est une bonne parole finalement que tu me dis. Parce que ça veut dire que jusqu'à ma mort, tout va bien se passer. C'est après moi le déluge, donc ça va bien. Comprenez-vous? Et la chose que je faisais, j'en ai parlé avec Mathieu parce que j'ai découvert ça 5 minutes avant la réunion du premier culte. Tout à l'heure, je lisais même la suite, la portion, et je m'aperçois que le pire roi que Juda a eu, c'est le fils d'Ézéchias. Et vous savez quand est-ce qu'il l'a eu? La Bible nous dit que Manassé, c'est son fils qui s'appelait Manassé, et il est monté sur le trône, donc quand son papa est mort, il avait tout juste 12 ans. Ça veut dire qu'il a eu ce fils, écoutez bien, il a eu ce fils dans ses 15 années de bonus. Et au lieu de passer son temps à faire de lui le futur roi, ce futur adorateur qui allait conduire le peuple de Dieu dans sa présence, etc., il va passer son temps à pavaner et son fils va grandir comme ça. Et lorsque son fils va prendre le trône, la Bible nous dit que tout ce que son père avait détruit, les fausses idoles, etc., il va tout ramener en Israël, en Juda. Et à cause de ce roi, de ce mauvais roi, de ce mauvais fils, mais on comprend que c'était un mauvais fils, il a eu un mauvais père. Et à cause de ça, la Bible nous dit que les Babyloniens vont venir et ça va être une catastrophe. Ils vont être amenés littéralement, ils vont être exterminés, ils vont être amenés comme des prisonniers. Comprenez-vous? Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? Est-ce que tu vas passer ton temps juste à courir après des choses vaines, juste pour des gloires personnelles, ou est-ce que tu vas réaliser le cadeau? C'est un cadeau. Est-ce que tu vas réaliser le cadeau que Dieu te donne? Le cadeau de la vie que Dieu te donne? Le privilège de pouvoir aimer ton épouse, aimer tes enfants? J'ai demandé à Joseph si tu peux revenir, s'il te plaît. Moi, ça fait 45 ans que j'ai le privilège de vivre. Il y en a, vous avez 15 ans, ça fait 15 ans, vous avez le privilège de vivre, et d'autres, c'est 70, 80 ans. Vous avez le privilège de vivre. Et c'est un cadeau que Dieu nous donne. Est-ce que vous le réalisez? C'est un cadeau que Dieu nous donne. Moi, j'ai eu un ami à moi qui est mort à l'âge de 23 ans. Et nous, on est là des moments, on vieillit, puis on n'est pas content d'avoir vieilli, etc. Je pense que mon ami qui est mort dans un accident de voiture, je pense qu'il aurait aimé avoir des rides. Il aurait aimé un jour avoir des cheveux blancs. Comprenez-vous? Il aurait aimé un jour être un vieux. Et c'est un privilège que nous avons. Vous savez, si on veut vivre longtemps, on n'a pas d'autre choix que de vieillir. Et c'est un privilège, la vie que Dieu nous donne. Oui, il y a un départ, il y a une fin, puis après c'est la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais entre ce laps de temps, ce que nous faisons est important. Et il y a un appel à aimer la vie. C'est un privilège d'aimer la vie. C'est un privilège d'être vivant, d'aimer son épouse, d'aimer son enfant, d'aimer les grâces que Dieu nous donne. Vous savez, des moments, ce qui nous pollue et ce qui littéralement détruit notre destinée, celle que Dieu avait prévue pour nous, c'est notre ego. C'est notre ego, c'est comme Ézéchias. Je veux toujours quelque chose, je crois que le bonheur vient de l'extérieur. Alors je veux toujours quelque chose de plus gros. Hein. Je veux une plus grosse maison, je veux une plus grosse voiture, je veux une plus grosse paye, je veux tout plus gros. Mais j'aimerais vous dire, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Quand je suis en paix avec Dieu et que je suis en paix avec moi-même, alors j'en ai plus rien à faire de ce que les autres pensent de moi. Parce que je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec moi. Et ce n'est plus les autres qui m'apportent une pression, comme Ézéchias, et qui m'amènent à vouloir paraître. Non, je suis là et je suis en paix avec Dieu et je profite. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime la vie que Dieu me donne, j'aime les cadeaux que Dieu me donne. Est-ce que vous êtes content de ce que Dieu vous donne? Je suis heureux d'être pasteur de cette église, j'espère que vous êtes heureux. Vous savez, on passe tellement de temps et d'énergie à ne jamais être content de ce que nous avons. Tellement d'énergie, ah ben l'église, ça doit être comme ceci, comme ça, puis ma femme, elle doit être comme ça, puis mon mari, ceci, cela, etc. Mes enfants, puis de... On passe tellement d'énergie au lieu d'apprécier ce que Dieu nous donne. C'est un cadeau. Et on est appelé à aimer, on est appelé à encourager, on est appelé à apprécier tous ceux et celles qui sont autour de nous. La vie n'est pas une incertitude qui nous conduit vers le malheur, mais c'est plutôt un mystère qui nous porte vers un monde meilleur. C'est une grâce, c'est une joie, et je veux aimer et je veux apprécier la vie. Je me souviens d'un chant que j'ai entendu, qui a dû être écrit, j'étais même pas né, de Serge Reggiani, qui dit ceci: je l'aime tant le temps qui reste. Je l'aime tant le temps qui reste. Il l'a écrit dans sa vieillesse. Combien il me reste? 5 ans, 10 ans, je l'aime tant le temps qui reste. Je veux courir, je veux chanter, je veux danser, je veux boire du vin de Bordeaux et d'Italie, je veux parcourir la terre, je veux crier, je veux vivre, je l'aime tant le temps qui reste. Je l'aime tant ce temps qui reste. Je veux rire des montagnes de rire et pleurer des torrents de larmes. Mais je veux aimer le temps qui me reste. Je veux aimer le temps qui me reste avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec mes amis. Je veux aimer nos soirées d'amitié, d'amis, à manger des pâtes faites par ma femme, de la sauce bolognaise. Elle est bonne, cette sauce bolognaise. Et je veux aimer la vie. Vous comprenez? Puis ceux-là, ils ne sont pas contents, c'est tant pis. Mais je ne suis pas là pour leur faire plaisir à eux. Je suis là pour être en paix avec mon Dieu et être en paix avec moi et les gens que j'aime. Comprenez-vous? J'aimerais finir. Vous pouvez applaudir si vous l'applaudissez. J'aimerais finir avec cette citation d'un très grand philosophe, du plus grand philosophe du XXe siècle. J'ai nommé Snoopy. Et Snoopy a dit ceci, si tu peux mettre la diapo. On dit à Snoopy: un jour nous allons tous mourir, Snoopy. Et Snoopy répond: oui, mais tous les autres jours nous allons vivre. Aujourd'hui tu es vivant. Alors aujourd'hui, il faut que tu vives la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que c'est un cadeau que Dieu te donne. Hier est passé, tu ne pourras pas le changer. Demain est incertain. Mais aujourd'hui, c'est une certitude. Tu l'as dans tes mains. Alors fais que ce cadeau, que ce présent soit un cadeau pour ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place et juste applaudir notre Seigneur pour la vie qu'il nous donne?
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Everyone's got their own opinions. There's nothing they don't know about. But in the end, nobody's winning, 'cause nobody's got it figured out. All the things we think we know, but honestly, we really don't. This side of heaven, save the worry, stop the hate, it doesn't matter anyway. This side of heaven. Your own decision, you can write it on a sign. But when it feels like something's missing, listen up and I'll tell you why. All the things we think we know, but honestly we really don't. This side of heaven, save the worry, stop the hate, it doesn't matter anyway. This side of heaven, I remember.
how he showed me. Love is first above all, and that judgment should come slowly, 'cause we all have our faults. All the things we think we know, but honestly we really don't. This side of heaven, save the worries, stop the hate, it doesn't matter anyway. This side of heaven.
Du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Je suis plus avisé que tous, car tes préceptes font ma méditation. Psaume 119, verset 99. La parole vivante. Bonjour à tous. Le théologien Eugene Peterson, auteur de la Bible The Message, déclarait « Les mots imprimés sur ces pages témoignent de la révélation vivante du Dieu de la création et du salut. » Le Dieu d'amour qui est devenu la parole faite chair en Jésus, et je ferais mieux de ne pas l'oublier. Si, dans ma lecture de la Bible, je perds le contact avec cette dynamique, si je n'écoute pas ce Jésus pleinement vivant, si je ne me soumets pas à son autorité, si je ne réponds pas à son amour, je deviens orgueilleux dans mon savoir et distant dans mon attitude. Une mauvaise lecture de la Bible cause d'énormes dégâts dans la vie du chrétien. À bon entendeur, salut. Il ne suffit pas de lire la Bible tous les jours, il faut aussi la pratiquer sans relâche. Le psalmiste écrit « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes principes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. » Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent, je déteste toute voie de fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, versets 97 à 105. La Bible devient une parole vivante lorsqu'on décide de vivre chaque jour selon ses principes.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, ma radio.
Avec un si, certains diront qu'en une bouteille on mettrait Paris. Avec un si, c'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec un si, une seconde changerait le monde, changerait la vie.
Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux. Demain sera mieux, sera mieux. Que demain sera mieux, sera mieux.
Avec un si, et seulement si, on donnait nos cœurs, on donnait nos vies. Avec un si, facile à dire, pas facile à faire, ça reste un pari. C'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui.
Alors allez bien, faut qu'on essaye un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaye un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux.
les choses. Et à quoi bon si l'homme ne change pas? On aura beau aux anges jeter des roses, si ce n'est que parler, parler, parler. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fait que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fait que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fait que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fait que demain sera mieux.
Something trying to steal my mood, my crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings a bigger picture into view. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every birthday, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. You give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. And you clothe the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. Everything that you would choose to set your eyes on me, it blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time.
Down one time, break it down two times. Hey, listen up.
Why should I worry? Why should I care? 'Cause nobody loves me, no. Like you love. Why should I worry? No. Why should I care? Every second thought about tomorrow's wasting time. Like you.
FM.
Hommes et femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour. En partenariat avec The Watchers.
Notre thématique du jour, l'adolescence.
L'âge merveilleux.
Oui.
Alors, moi,
l'âge redouté des parents.
Ouais, c'est ça.
On a eu 5 garçons à l'adolescence en même temps, puisqu'on en avait un qui avait 19 ans et l'autre qui avait 13 ans, forcément. Donc ils étaient tous les 5 ados.
Wow.
Et les gens avant, quand ils voyaient arriver l'adolescence, nous disaient ça va être l'horreur. C'est cauchemardesque, l'adolescence. Eh bien non, c'est pas une fatalité. Moi, je me disais, on se disait tous les deux, non, on n'accepte pas cette parole de cauchemar sur nos enfants à l'adolescence. On va continuer à garder le dialogue. Je vous dis pas que ça s'est passé sans problème. On en a eu certains qui sont allés goûter à l'extérieur pour voir comment c'était. Mais on a gardé le dialogue et c'est ça qui est important. La stratosphère, là, quand on la traverse, on sait pas trop, mais ils pouvaient toujours revenir vers nous. Donc, non, c'était des belles années où on est resté connecté, on a pu les accompagner. Donc, on revient à la fille, on va commencer par la fille. Première règle. On l'accompagne. Si elles sont douloureuses, il faut l'emmener chez le médecin. Il n'y a aucune raison qu'on laisse notre fille souffrir des règles douloureuses. Il faut l'emmener chez le médecin. C'est pas parce qu'on va la faire soigner qu'il va y avoir un drame et qu'elle va tomber enceinte. Rien du tout. Mais on l'accompagne, on la soigne. C'est fait partie de rentrer dans la vie de femme. Il ne faut pas que ça soit traumatique, cette entrée-là. Chez les garçons.
Pour les garçons, donc on avait tous les 10 jours, tous les 15 jours, j'avais une relation un à un, c'est-à-dire que je parlais avec un de mes garçons et on discutait de choses et d'autres. Et en fait, le but, c'était vraiment de les préparer. Et particulièrement, quand les flots d'hormones sont arrivés, ils m'ont dit « Papa, qu'est-ce qui nous arrive quoi ? J'ai de la colère, je me sens énervé, j'étais pas comme ça avant. » Et quand j'ai eu fini de leur expliquer que les hormones, on avait un tel flot d'hormones deux fois dans notre vie uniquement, quand on est dans le ventre de la maman, et ça, on s'en rappelle pas, et quand on est adolescent, ils m'ont dit « Mais j'ai vu sur leur visage la paix, et dire, oh, ça me rassure parce que je croyais que je devenais fou, quoi, je devenais quelqu'un d'autre. » Et donc, on va faire du sport, on va essayer de canaliser ces hormones pour que ça se transforme pas en agressivité. La testostérone, c'est le poil qui pousse, c'est les muscles qui se développent, c'est l'homme qui devient homme. Et donc, en les accompagnant, ça les a rassurés d'une manière incroyable.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Well, it seems to play the same old piece to play alone, cause the audience never listened to her mermaid song. That temptation was a sunny isle where all the lives is dead. Don't use its shadows to make your bed. And behind that painted lady there's a masterpiece. All behind that painted lady she's a masterpiece. Oh, but she don't care to think so. No, she hasn't got belief. That's what she's wearing over her face. They're singing, oh, take me back to me. Oh, the original me. Oh, take me back to me, in the original me. And when the sun descends, she'll be the swan song silhouette. And even down the road, she'll be the last to leave your head. And you'll feel like you're marooned upon that sunny isle instead. Don't use its shadows to make your bed. Oh, take me back to you. Oh, the original you. Oh, take me back to you. And the original. Thank you.
ignoring the one from up above who designed it. Wasted a lot of my time running away from truth. Putting on a fake smile till the lights went out was the easiest thing to do. But I didn't wanna live life like this. Yeah, there had to be more to it. Was the Bible just to show you? Yeah, I really had to know, so I went and I studied it. With a desperate heart and an open mind, not knowing what I find inside. On each page was the love I craved. For the first time I was alive.
When I found you, I found truth in the moment. I wasn't alone when I was made.
When I found you,
you made it through.
Oh, when I found you,
when I found you, 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 you,
you, you, you,
you, you, you, you,
you, you,
you, you, you, you, you, you, you,
you, you, you, you, you, you, you,
you, you, you, you, you, you, you,
you,
you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, giving credit to the one from up above who made it.
Got sick of living a lie, claiming to know the truth.
I was swimming in doubt, starting to drown, and that's the moment I knew.
Something in me had to be fixed, but would I really submit to the unseen truth of the God of my youth? Yeah, it was time to pick.
Fell to my knees before the king, said, Lord, have mercy on me.
In a moment's glance, chains fell from my hands, and I was set
free. When I found true love in the moment, I wasn't alone and I was made
when I found you.
You made it through.
You weren't playing hide and seek. Yeah, I found you, but first you found me. Every song I sing, this is my melody.
When I